Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'ai rien à te dire sur ce film-là. Et puis hop, 20
hop,
minutes.
20 minutes de ce solo de Yannick Dahan. Non mais attendez, attendez.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma, 50e édition déjà, c'est fou comme le temps passe, déjà un an que nous parlons très fort et du mieux qu'on peut de Cinoche et de série avec amour, gloire et beauté, surtout beauté en ce qui me concerne. Et pour ce nouvel épisode, quoi de mieux qu'un petit film d'horreur sympatoche passé quasiment inaperçu, Krampus, un Christmas movie au mois de mai en plus, c'est absolument parfait. Pour en parler, trois lutins du Père Noël, y a pas d'autre mot, Yannick Dahan, salut Yannick.
Salut.
Alexandre Arbeau, salut Alex.
Salut.
Et Stéphane Moïsekis, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Allez, Cénociné, épisode 50 et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Krampus est signé Michael Dougherty. Ça nous raconte un Noël qui tourne mal quand le jeune Max décide de bouder les fêtes pour éviter d'affronter sa famille qui se met sur la gueule. Sauf que ce faubon aux traditions va hériter un personnage qu'il vaut mieux ne pas trop gonfler. Krampus, un vieux démon, le pendant horrifique du Père Noël. Oui, je prononce Krampus comme à la bretonne, mais c'est pas grave. Qui va leur coller une misère de tous les diables. C'est assez sanglant et plutôt jouissif et malin. Au casting, pas beaucoup de visages connus, si ce n'est ceux d'Adam Scott de Parks and Recreation et de Toni Collette.
He and his helpers did not come to give, but to take.
Bon alors par contre, il n'a pas bénéficié ce film d'une diffusion démentielle en France, donc dépêchez-vous, s'il passe toujours près de chez vous, ça va pas durer. Krampus, qu'est-ce que vous en avez pensé autour de la table? Alexandre, toi qui regardes ton téléphone au lieu d'écouter ce que je raconte.
Ah mais je suis sur la fiche, il y a des mets de Krampus.
Ah, super, bravo.
Pour pouvoir citer
méga maxi préparation.
Pouvoir... Non, c'est juste pour pouvoir citer le nom d'un acteur sans la mocher.
Mais la meuf de Fargo.
Non, oui, ah c'est vrai.
Parce qu'il y a la meuf de la saison 2 de Fargo quand même.
Ah oui, c'est vrai.
Dedans,
elle est excellente cette actrice. Mais non, c'est un autre nom que je cherchais, mais on en parlera tout à l'heure. Krampus, bah écoute, c'est un peu décevant de l'avoir découvert. Effectivement au mois de mai, même si on a quand même eu des températures hivernales. Non mais ça c'est quand même ça commence fort. Attention, premier sur les ragots du temps. Non, bah Krampus, rapidement, c'était un film que j'attendais beaucoup parce que ça marque le retour derrière la caméra de Michael Dougherty, qui avait quand même signé en 2007 Trick or Treat, qui était un excellent film anthologique autour d'Halloween, avec environ 5 histoires qui s'entrecroisaient. C'était un film qui avait eu un certain succès d'estime, dont un des personnages, un des boogeyman assez iconique, fait d'ailleurs toujours partie aux États-Unis des déguisements prisés par les fans de films d'horreur. Et donc là, bah, presque 10 ans plus tard, retour aux affaires avec un film qui est classé PG-13, comme on dit. Donc c'est un film qui est censé être tout public, en tout cas pour les jeunes ados peuvent y aller. Et effectivement, c'est pas très très gore, mais ça veut pas dire que c'est pas violent. C'est bourré de scènes d'affrontements entre des monstres et des humains très bien réalisés, qui moi ils m'ont fait penser par moments, toute proportion gardée, à certains Peter Jackson, mais sans la générosité gore évidemment d'un Brendan, mais plutôt dans certaines scènes qu'il a pu insouffler, enfin caser dans sa trilogie, dans ses deux trilogies sur les Anneaux et Hobbit, qui était pas avare finalement de scènes un peu de grand guignol déguisé. Je suis assez fan moi d'Adam Scott, donc il pourrait jouer n'importe quoi, je le suivrai jusqu'au bout. Et surtout, bon, on en parlera, mais moi je trouve qu'il y a un soin au détail apporté. C'est un film qui est quand même pas d'une ampleur folle, c'est principalement presque un huis clos, même s'il y a quelques scènes en extérieur, mais c'est voilà, une espèce de survival de Noël qui rappelle un petit peu Gremlins et d'autres productions Amblin des années 80, et c'est pas un film majeur, mais c'est un film qui est tout à fait plaisant et que il aurait été bon encore une fois de découvrir Noël.
Yannick.
Ouais, non, c'est vrai. Alors le côté Grimwitz, moi, il y a une facture dans le film qui est super intéressante et qui évoque effectivement des Joe Dante, mais pas que. Moi, ça m'a fait penser aussi à Rare Exports, qui était Père Noël Origine, je crois en français. Oui. Je me rappelle plus le titre.
Ouais, c'est ça. Père Noël Origine
en français.
C'est ça. Titre horrible.
En non français.
Ouais, en non français. C'était un super film. Donc oui, on sent le mec d'ailleurs qui n'a pas fait de film depuis Trick or Treat, qui quand même date un petit peu. Donc un mec qui est vachement ancré dans la culture cinématographique des années 80. Mais ça se ressent dans l'exigence avec laquelle il traite le merveilleux dans le film, ou le cauchemardesque comme on veut, parce que moi je suis même encore plus radical que ça. Pour moi, c'est pas du tout un film d'horreur, c'est même pas un film d'épouvante. On est dans une farce macabre, donc c'est vraiment très gentil comme film. Par contre, ce souci du détail sur les figures mythologiques, sur la façon dont il amène les conflits, justement, moi, les monstres, alors. C'est pas étonnant que tu parles de Peter Jackson puisqu'ils ont été faits par Weta, donc c'est il y a vraiment un travail hallucinant dessus. Moi, la créature du, je me rappelle plus son nom, Krampus, voilà.
Krampus,
Krampus, qui est une espèce de mix effectivement entre des créatures qu'on a pu voir dans le Seigneur des Anneaux, moi qui m'a énormément fait penser aussi à des créatures sorties de l'imaginaire japonais à la Dark Souls, Bloodborne, où c'est vraiment assez bien retranscrit, cette espèce de sorcier courbé avec des cornes, un truc un peu horrible. Après, le film il est clairement coupé en deux, c'est pour ça que moi je parle plus de farce macabre, parce que ce qui m'a plu dedans, étonnamment, c'est peut-être plus la première partie du film que la seconde. La seconde étant le survival à proprement parler, avec les affrontements avec les créatures, mais effectivement la façon dont il peint la famille dysfonctionnelle, alors, de manière ouvertement outrancière, mais c'est une gestion en mise en scène de la scénographie qui est quand même super étonnante. Il a une dizaine de persos, ça passe avec une fluidité incroyable, chaque dialogue est hyper juste, dit une information sur chaque personnage. La façon dont c'est écrit et tourné, cette première partie, pour moi, était bluffante. Tu veux rentrer dans le truc, même si tu vois typiquement la première scène où on voit les types dans le centre commercial se battre, soir de Noël, on a déjà vu ça dans d'autres films. Oui, oui. C'est blindé d'emprunt à plusieurs films cultes.
Mais c'est pas déférent, mais c'est pas écrasé.
Voilà, c'est pas écrasé, c'est pas pompé, c'est le mec qui se le fait à lui. Enfin, c'est vraiment son univers là. Et puis derrière, toute la gestion de la famille, j'ai trouvé ça incroyable. Après, je trouve que voilà, le film tombe un peu à plat pour moi. Il y a une espèce de pirouette finale qui le rend pas super intéressant, qui là encore est emprunt. Mais t'as l'impression que c'est emprunté à Spielberg, mais
ou même la quatrième dimension,
mais emprunté de façon pas de façon intelligemment amenée, emprunté de façon je fais la pirouette pour conclure parce que je sais pas comment terminer mon truc. Donc voilà, voilà, moi je défends le film parce que je trouve qu'il y a une gestion en termes de mise en scène et d'écriture de cette famille pendant une bonne partie du récit que moi j'ai pas vu depuis très longtemps et qui convoque cet artisanat, cette façon, dont on savait gérer le rapport entre la psychologie et le merveilleux, entre le réel et l'imaginaire, qui était quelque chose de super bien fait dans les films qui nous ont fait fantasmer gamins et que moi je retrouvais pas depuis. Et ce mec là il a cette patte là, quoi, donc c'est intéressant pour ça, je trouve.
Stéphane.
Le truc, c'est qu'il y a aussi un... Moi, je le classe quand même un peu dans le truc horrifique, même si c'est de l'horrifique qui dit, quoi, light, tu vois. C'est un des trucs qui le rend aussi plaisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cinéma d'horreur, c'est quand même hyper formaté. T'as quasiment plus de propositions différentes. Tout sort en direct ou vidéo. En France, on a énormément de mal à faire sortir ce film-là, en plus, qui plus est. Donc le truc, c'est que quand tu vois ce petit truc débarquer, tu te dis, ah, c'est sympa, on est dans une autre proposition, même si c'est une proposition qui revient effectivement au cinéma des années 80. Je suis à peu près d'accord avec tout le monde à cette table. Je remettrai juste un petit peu de bémol sur 2-3 trucs. Il y a, Michael Dougherty, c'est quand même le scénariste à la base de Bryan Singer. Hein. Mm-hmm.
Sur X-Men 2, Superman Returns.
Voilà, et mine de rien, quand tu vois ces films-là, c'est là où tu te rends compte qu'il est un peu aussi responsable de certains problèmes dans X-Men 2 et Superman Returns, quoi. Et notamment, justement, alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec la mise en place que je trouve assez longuette pour un film de aussi court, finalement. Même si effectivement ce qui fonctionne très bien, c'est la mise en place de la famille. C'est surtout que moi, ce qui me posait problème, c'est cette espèce d'opposition famille démocrate contre famille républicaine, tu vois, avec David. Moi j'aime beaucoup David Kushner, mais qui joue tout le temps son rôle de gros beauf républicain, voilà. Et effectivement, ce qui est payant, c'est-à-dire tu te tortors ça un peu parce qu'au début, parce que tu te dis merde, c'est aussi pas finaux que ça en fait. Et finalement, il arrive effectivement à les rendre un peu plus touchants chaque personnage. Et ça, c'est effectivement c'est ça qui réussit. Donc ça valait le coup de se payer un peu le début. Et la problématique de la fin, qui est effectivement la même problématique que dans Superman Returns ou X-Men 2, c'est-à-dire en gros, c'est tu te fais s'entrechever deux trois trucs en même temps et du coup, c'est allez, on expédie ouais, en même temps.
Résolution express.
Voilà, t'as quatre persos qui se font enlever d'un coup dans le même setting où tu te dis ah bon, tu pouvais pas être un peu plus imaginatif là-dessus, tout ça pour faire une fin en fait finalement qui effectivement tire un peu le truc par les cheveux. Et voilà, donc le problème c'est que cette famille elle fonctionne, le gosse par exemple au milieu qui est censé être ton vecteur il fonctionne pas trop, moi je trouve que c'est ça le problème, c'est que du coup tu te dis bon bah en fait tu ne m'attaches pas à lui, en fait c'est juste un truc pour lancer l'idée que il voudrait que sa famille se...
Il n'est pas amené jusqu'au bout ce perso.
Voilà, donc le
truc c'est que... Le personnage de la grand-mère est quand même... Déjà, le simple fait d'entendre parler allemand dans un film d'horreur américain, c'est assez rigolo. Et je la trouve hyper... sa présence à chaque scène, chaque plan dans lequel elle apparaît, qu'elle soit contre la cheminée ou en train de couper des trucs dans la cuisine, je trouve qu'elle amène quelque chose qui... Et puis, il y a aussi cette scène-là qui concerne son personnage de
voilà,
flashback.
Voilà, de flashback, qui est un petit plaisir aussi au milieu du film, où même si, encore une fois, ça a déjà été fait, c'est fait en animation image par image, et c'est assez joli, assez chouette, tu vois. Et tu te dis, tiens, c'est pas justifié, c'est juste un petit bout de narration comme ça, on te dit voilà, et c'est plaisant à voir, c'est joli. Encore une fois, t'as vu ça dans par exemple Hellboy 2, tu vois, au début, l'ouverture d'Hellboy 2, voilà. Mais le truc, c'est que dans Hellboy 2, en plus, c'est justifié pour le coup narrativement. Oui. Là, ça ne l'est pas, mais ça fonctionne. C'est chouette.
Tout ça traduit quand même l'amour du réel pour le conte, pour le merveilleux, pour la façon dont il a été retranscrit d'une certaine manière à une époque. Donc, effectivement, il y a une forme de déférence par rapport à un cinéma ou alors un fantasme, comme on veut, de retrouver quelque chose. Mais là-dessus, il n'y a aucune prétention, ça cède jamais à des facilités et il y a quand même une exigence en termes de fabrication là-dessus, qui pour moi mérite le respect, après toutes les problématiques qu'il y a autour, d'accord.
Krampus, c'est au cinéma depuis le 4 mai, sans doute plus pour très longtemps, mais ce sera sans doute rattrapable sous peu en DVD, en Blu-ray et même en VOD, qui sait, on peut toujours rêver. Pour terminer, comme toujours, les recommandations de notre sémillante équipe, est-ce qu'au bout de 50 épisodes, Yannick Dahan a enfin compris qu'il en fallait une à chaque fois?
Du coup, je vais conseiller très rapidement, parce que je l'ai pas en tête, je l'ai pas revu depuis un petit moment, mais le Rare Export dont je parlais, Père Noël Origine, qui est un petit film passé un peu inaperçu en France, et qui était pareil, une façon de retravailler sur ce conte avec... En plus, à travers une famille dysfonctionnelle aussi, et probablement bien plus noire d'ailleurs dans le traitement de la famille que ne l'est Krampus, et donc vachement audacieux, vachement intéressant, très Spielbergien dans l'âme.
Si vous aimez les bits de vieux, là, vous allez être ça.
c'est ça. Et puis, mais vraiment avec un amour du cinoche de Spielberg qui transparaissait dans chaque image. Il y a même ça fait partie des types dont on a dit c'est presque un héritier du bonhomme. Et c'était sans prétention, petit film, mais vraiment brillant, quoi. Donc je le conseille. Voilà.
Alexandre.
Alors moi, comme Stéphane l'a cité, il y a David Koechner dans le casting de Krampus. David Koechner, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais sa tête, si vous le voyez, forcément, ça veut dire quelque chose. Il fait notamment partie de la bande de journalistes bracassés aux côtés de Will Ferrell dans les deux Anchorman. Il joue dans plein de films, dans plein de séries américaines. C'est un mec très drôle. Et je sais pas pourquoi, mais si je devais tirer un film de sa longue filmographie, je choisirais sans doute peut-être l'un des plus mauvais, mais en même temps, dans lequel il a la scène la plus drôle qu'il a jamais faite, c'est Piranha 3DD. La suite direct ou VOD de Piranha 3D d'Alexandre Aja.
Mais il n'y a que toi qui as vu ça.
Avec David Hasselhoff dedans qui joue son propre rôle. Et Koechner joue le rôle du boss véreux de la base nautique où le drame, l'action se passe. Et il a une scène de mort qui est un espèce de grand guignol gore débile qui me fait encore mourir de rire. Spoiler, il y a des gros nichons dedans.
Voilà. C'était capillotracté, mais c'est intéressant quand même.
C'était bien amené. Stéphane, à toi de faire mieux.
Ah ouais, mais là je ferais pas mieux. Mais non, mais moi je pense film d'horreur à Noël. Donc je pense à Black Christmas, un film des années 70 qui est beaucoup plus radical pour le coup.
Ah oui, ça c'est certain.
Voilà, que Krampus, donc ça, soyez prévenus. Et c'est en fait, c'est une sororité, c'est ça en français
Oui, c'est ça, oui. Ouais. Oui.
Une fraternité de sororité, je sais pas, de comment dire, de jeunes filles qui se font agresser par je vais pas le dire, spoiler.
Non, bah non, c'est tu peux pas trop t'avancer dans l'histoire.
Et c'est un film qui, 40 ans après, tient encore quand même assez le coup
assez
sur le
solide,
côté malsain, quoi. Je crois que c'est réalisé par Bob Clark, quoi, qui a pas brillé sur d'autres trucs, à mon sens, quoi. Avec Keir Dulea de 2001, quand même, Margot Kidder, John Saxon, voilà. Donc c'est assez un petit classique de l'horreur qui est pas aussi connu qu'il devrait l'être, quoi. Accessoirement, son remake qui a été fait en 2005-2006 est pas trop mal aussi. Il est meilleur que sa réputation ne le laisse passer.
Son titre
Black Christmas. C'était produit par les Weinstein, mais c'est pareil. Ça avait été... c'est un gros problème aux États-Unis, hein, les films d'horreur de Noël, pardon. Ouais. C'est un truc qui pose problème. Hein. Là, en l'occurrence, sur Krampus, si j'ai bien compris. L'idée de le faire en PG-13, c'était vraiment la raison pour laquelle le film a été financé à 15 millions de dollars, ce qui n'est pas grand-chose. Hein. Mais c'est parce que, en gros, Noël, c'est sacré. Voilà, voilà. Donc Black Christmas.
Oui. Bob Clark, effectivement.
Voilà, je ne sais pas si c'est sorti en DVD, par contre, en Blu-ray chez nous.
Il me semble qu'il y avait une réédition tout à fait correcte. Et donc, c'est conseillé par Stéphane. Merci beaucoup à tous les trois. Notre temps est écoulé. Merci à Jules à la technique. Merci autant que pour l'accueil. Prochain de ciné version longue, on parlera de Sisters, nouvelle comédie US mettant en scène deux de nos chouchoutes, Amy Poehler et Tina Fey, mais un peu pour Raph quand même. D'ici là, on se retrouve comme toujours sur nosciné.com, notre petit site où sont consciencieusement rangées toutes nos émissions, un an de pur bonheur, et ça va continuer. Laissez-nous des petits messages sur les réseaux sociaux de votre choix, ça nous fait toujours chaud au cœur de savoir que vous nous écoutez. On rappelle que Nosciné, c'est un podcast du réseau Binge Audio, à retrouver aussi sur binge.audio, et en attendant, on vous dit à très vite.
Salut à tous, c'est Jean Z, No Game, le podcast jeux vidéo, c'est tous les mercredis sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.